Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés du média suivant. La presse. Au programme, le Québec est mal équipé pour faire face aux multiples crises. CF Montréal, quand l'élève devient le maître. Et baptisez-le bien, nom d'un chien. Bonne écoute.
Le Québec mal équipé pour faire face aux multiples crises. Une opinion de Guillaume Tremblay-Boilly, chercheur associé à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, IRIS, publiée le 22 mars 2023 dans la presse. Le budget 2023-2024 du ministre des Finances Éric Girard aurait pu être l'occasion de mettre en place un véritable plan de transition écologique et de prendre des mesures concrètes pour redresser les services publics ou encore répondre à la crise du logement. Pourtant, le gouvernement Legault se prive des moyens nécessaires pour réellement faire face aux défis de l'heure, qu'il s'agisse de la crise du logement, de la crise climatique ou de la détérioration sans précédent des services publics. Ce faisant, les choix effectués par le gouvernement Legault dans l'exercice budgétaire 2023-2024 révèlent un conservatisme fiscal en décalage avec la situation actuelle du Québec. Un plan de réduction de la dette qui limite l'action gouvernementale. Malgré l'incertitude économique actuelle, le gouvernement a tout de même choisi de se donner de nouvelles cibles de réduction de la dette. Il vise l'atteinte d'un ratio de la dette nette au PIB de 30 % d'ici 2037-2038. François Legault nous avait habitués aux comparaisons avec l'Ontario. Or, la dette nette du Québec est désormais inférieure à celle de la province voisine. Le gouvernement s'appuie donc sur la moyenne canadienne pour justifier sa nouvelle cible de réduction de la dette. Ce choix paraît mal avisé alors que la dette du Québec est déjà maîtrisée. En révisant la loi sur la réduction de la dette, le gouvernement aurait pu relâcher l'étau budgétaire qui limite son action. Il se serait ainsi donné une plus grande marge de manœuvre financière pour intervenir afin de mieux soutenir les personnes vulnérables. Baisse d'impôts, une aide à des ménages qui n'en ont pas besoin. Sans surprise, le gouvernement a maintenu sa promesse de diminuer d'un point de pourcentage le taux d'imposition des deux premiers paliers de la table d'impôts. La mesure, maintenant présentée comme un incitatif au travail, risque d'avoir peu d'effet alors que le taux de chômage atteint un creux historique. De plus, rappelons que cette baisse d'impôts profitera particulièrement aux personnes touchant un revenu entre 90 000 $ et 100 000 $. Toutefois, le gouvernement, qui a diminué à trois reprises les contributions fiscales depuis 2018, se prive désormais d'un montant total de 4,1 milliards de $ par année, des sommes qui auraient pu servir à l'amélioration des services publics et des programmes sociaux. Au lieu de cette mesure inéquitable qui profite surtout à des personnes qui n'en ont pas besoin, le gouvernement pourrait adopter des mesures plus ciblées pour améliorer le revenu disponible des ménages moins aisés. Il pourrait, par exemple, baisser les tarifs de garderie, les droits de scolarité et les tarifs du transport collectif, des mesures qui bénéficieraient à un plus grand nombre de Québécoises et de Québécois. Environnement. Un manque d'ambition consternant. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, a annoncé dans son plus récent rapport que tout devait être mis en œuvre pour limiter le plus rapidement possible le réchauffement climatique. Le gouvernement Legault semble ignorer ces avertissements. Fidèle à ses habitudes, il a proposé des mesures peu ambitieuses, insuffisantes face à l'ampleur de la crise climatique. Si la tendance se maintient, le Québec n'atteindra pas les cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre que le gouvernement s'est lui-même donné pour 2030. La somme de 200 millions que le gouvernement consacre cette année à la relance des transports en commun est dérisoire, compte tenu du sous-financement du transport collectif dans plusieurs municipalités. Rappelons que dans une étude parue en septembre 2022, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, IRIS, estimait que la mise en place de nouvelles mesures d'éco-fiscalité, telles qu'une hausse de la taxe sur les véhicules dits de luxe, permettrait d'ajouter 1 milliard par an dans les coffres de l'État québécois. Ces fonds pourraient être utilisés pour réduire notre dépendance à l'automobile, un moyen efficace de lutter contre les changements climatiques. Logement. Un glissement inquiétant. Alors que sa prédécesseure a admis du bout des lèvres qu'une crise du logement sévissait au Québec, l'actuel ministre responsable de l'habitation dit vouloir miser sur le secteur privé pour venir à bout du problème. Or, sur les 173,4 millions de dollars que le budget prévoit en 2023-2024 pour favoriser l'abordabilité du logement, la plupart des fonds serviront à rénover les logements à loyer modique existants et seuls 9,5 millions iront à la construction de nouveaux logements abordables. De cette somme, 3,2 millions seront utilisés pour construire des logements abordables en collaboration avec le secteur privé. Une telle privatisation est hautement problématique, puisque c'est précisément la contradiction entre le besoin de se loger et la volonté d'acteurs dans le marché de tirer profit des biens immobiliers et locatifs qui explique en bonne partie la crise actuelle. Une chose est certaine. Pour ce qui est d'aider la population québécoise à faire face aux différentes crises qui l'affligent, le gouvernement de la CAQ semble engagé dans une bien mauvaise voie. C'était le Québec mal équipé pour faire face aux multiples crises. Une opinion de Guillaume Tremblay-Boilly, chercheur associé à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, IRIS, publiée le 22 mars 2023 dans la presse.
CF Montréal, quand l'élève devient le maître. Un texte de Justin Vézina, paru le 5 février 2023 dans La Presse. 22 ans. C'est à cet âge que Louane Schlicht est devenue l'analyste vidéo du CF Montréal. Et il n'est pas intimidé par le défi. Il n'y a pas de « tu as l'âge » ou tu n'as pas l'âge, ça ne veut rien dire, ça. Si tu es bon, tu es sur le terrain, tu assumes. Si tu n'es pas bon, tu te tais et tu restes sur le banc et tu regardes les autres, a dit la vedette française Kylian Mbappé. Schlicht en a un peu fait son mantra. Oui, j'ai 22 ans, mais au final, je veux être traité comme l'analyste vidéo. Si je fais une connerie, je ne veux pas qu'on dise que ce n'est pas grave. Je travaille dans une équipe professionnelle, raconte-t-il, dans un long entretien avec La Presse, dans une salle de classe au centre Nutrilait. Et la façon avec laquelle il a obtenu ce rôle est particulièrement intéressante. Des débuts comme analyste amateur. Féru de soccer depuis aussi longtemps qu'il se souvienne, Schlicht s'est fait découvrir par les passionnés du ballon rond grâce à ses analyses tactiques sur un site spécialisé, ses comptes rendus des performances des joueurs du CFM sur Twitter, on y reviendra, et ses chroniques à Génération Soccer à RDS. Schlitt a entamé son parcours dans le monde du soccer de haut niveau comme entraîneur. Après sa carrière de joueur, un ancien coach lui a proposé de venir l'aider à diriger les U14 du Celtics du Haut-Richelieu. Comme il a rapidement fait sa marque, on lui a offert le poste d'analyste vidéo de l'équipe senior qui évolue dans la meilleure ligue au Québec, la PLSQ. En compagnie de David Sauvry, désormais analyste vidéo de l'équipe réserve du Galaxy de Los Angeles, il a travaillé d'arrache-pied pour aider au succès du club. Le Celtics a terminé au troisième rang et leurs efforts respectifs ont été remarqués. Sauvry et moi, on a passé beaucoup trop de temps à travailler sur le club par rapport à notre salaire. On ne faisait pas un sou avec ça, dit Luan Schlitz, analyste vidéo du CF Montréal. Puis, quand l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui était championne universitaire canadienne en titre, a instauré un programme de vidéo, vers qui s'est-elle tournée pour donner le coup d'envoi du programme? Vers un jeune Luan Schlitz, qui avait également eu droit à des avis favorables de joueurs dirigés avec le Celtics. Au passage, il dit avoir lu une centaine de livres pour parfaire ses connaissances sur le monde du soccer. Même s'il était en mode éponge, son bagage de connaissances et sa feuille de route devenaient de plus en plus attrayants pour un futur employeur. Puis, par magie, l'an dernier, il est apparu sur le radar de Maxime Chalier, analyste vidéo du CFM. Ce dernier a eu droit à un peu plus de budget et pouvait se permettre d'aller recruter un adjoint. Et qui, de mieux que Luan Schlitz, qui a gravi les échelons du petit monde de l'analyse vidéo québécoise, à la vitesse grand V? En 3 semaines, c'était réglé, se rappelle Schlitz. Après quelques rencontres avec Chalier, il a discuté avec l'entraîneur-chef de l'époque, Wilfried Nancy, puis avec le vice-président et chef de la direction sportive, Olivier Renard, et ils ont tous été sur la même longueur d'onde. S'entame alors son parcours dans le grand club. Ça signifiait également la fin d'un autre chapitre pour Schlitz. Il a mis un terme à son baccalauréat en journalisme pour faire le grand saut et finalement travailler à temps plein dans le milieu qui le passionne. C'est bien, très bien même. Mais après, il faut y rester. Le départ de Nancy, Chalier et plusieurs membres du personnel d'entraîneurs lors de la saison morte pour le crew de Columbus a créé un flou autour du rôle qu'aurait Schlitz durant la prochaine campagne. En fait, il n'a plus de garantie. Finalement, le nouvel entraîneur-chef du CFM, Hernán Losada, a décidé non seulement de garder Schlitz au club, mais également de lui offrir une promotion en faisant de lui l'unique analyste vidéo du 11 montréalais. Je suis chanceux et reconnaissant que le club décide de me faire confiance après seulement une année dans le monde professionnel, a-t-il lancé. Après une saison comme assistant, il me donne les rênes du poste d'analyste. Contrairement à l'an dernier, Schlitz sera sur la route avec le club cette saison, même s'il sera parfois épaulé par Hervé Diaz, entraîneur adjoint, la personne responsable de la vidéo et du data, c'est lui. Travailler pour mon club. Né en France, Schlitz a instantanément encouragé l'Impact quand il est arrivé au Québec en 2011. Mais commencer à diriger le club qu'il regardait venait aussi avec des doutes, explique l'ancien détenteur d'abonnement de saison. Quand je suis arrivé, j'avais peut-être un peu peur de l'avis de certains joueurs. J'écris des trucs sur les réseaux sociaux et même si les joueurs disent qu'ils ne regardent jamais ça, la plupart le font. Donc, au départ, je me disais, est-ce que le petit jeune de 21 ans qui fait des commentaires sur les réseaux sociaux a vraiment les épaules pour dire quelque chose à Victor Wanyama, qui était sur le banc lors d'une finale de la Ligue des champions? Se demandait Luan Schlitt, analyste vidéo du CF Montréal. Même s'il n'a jamais douté de ses connaissances tactiques, petit à petit, Schlitt a prouvé aux joueurs qu'ils méritaient leur confiance. L'un des exemples qui l'illustre le mieux, c'est qu'après une rencontre, Kei Kamara, qui figure parmi le top 3 des plus vieux joueurs du circuit, a demandé à Schlitt de passer les clips du match en revue avec lui. Comme quoi on peut toujours apprendre et qu'on n'est jamais trop jeune pour enseigner. Quand j'y pense, j'ai 22 ans et je vis de ma passion. C'est bizarre à dire, lance-t-il tout bonnement. Il y a fort à parier qu'il devra continuer à se pincer, car ça devrait être son quotidien pour un bon nombre d'années. C'était CF Montréal, quand l'élève devient le maître, un texte de Justin Vézina, paru le 5 février 2023 dans La Presse.
Baptiser le bien, nom d'un chien. Un texte de Sylvain Sarrazin, paru le 26 février 2023 dans La Presse. Cela semble anodin, mais nommer son animal de compagnie constitue tout un art entre inspiration et visée d'éducation. Un petit répertoire récemment paru, D'où prénom, aux éditions Le Bout du Mille, recense plus de 3000 propositions récoltées auprès de refuges et de cliniques vétérinaires. Le choix d'un nom adéquat est-il crucial? Et comment l'inculquer à notre animal? Réponse avec une spécialiste en comportement des bêtes à poils. Bowie, lavande, spritz, gougoune. Le champ des possibles pour baptiser son animal a beau être quasi infini, il peut arriver que l'inspiration se tarisse. La vétérinaire urgentiste Dominique Gromann et Charlène Renaud, fondatrice du site c-tao.ca, qui soutient les refuges, ont eu l'idée d'inventorier tous les noms d'animaux qui leur sont passés entre les pattes et de les réunir dans un petit guide en collaboration avec la SPCA Laurentier-de-la-Belle. Le but? Nourrir des idées, dresser un portrait des tendances ou simplement divertir. Pour les refuges ou les éleveurs, il peut constituer un outil appréciable, comme ils sont conduits à pratiquer ce rituel de désignation des centaines de fois. Agrémenté de photographies, pour associer certains noms avec une truffe, le répertoire classe par ordre alphabétique plus de 3000 appellations de chiens, chats et autres, des plus extravagantes, pyroxénites, stallone, aux plus courantes, grisou, léo. Les noms courants et très courants y sont respectivement soulignés et encadrés, histoire de donner leur juste sur leur potentiel d'originalité. On retrouve également une brève section sur les duos, Hansel et Gretel, et les portées à thème, ravissantes trouvailles que celles des vins, Sirocco, Alizé, Mistral, etc. Après ce premier jalon, dont une partie des profits sera remise à des refuges, les autrices souhaitent continuer de nourrir cette compilation en incitant les propriétaires d'animaux à soumettre et à justifier les noms qu'ils ont choisis en écrivant aux autrices. Éviter les confusions. Élire un nom n'est pas un acte innocent, comme le rappelle l'équipe de la SPCA Laurentier de Labelle en préface. Pour nous, nommer un animal revient à honorer l'être qu'il est et constitue le point de départ d'une relation naissante entre un homme et un animal. Un point de départ, mais aussi un trait d'union, puisque le nom, si on le désire, peut se retrouver au cœur d'un volet éducatif, ne serait-ce que pour apprendre à un animal à y répondre. En la matière, la docteure Isabelle Bazin, vétérinaire spécialiste en médecine du comportement, dispose dans ses poches, entre deux gâteries, de quelques conseils bien aiguisés. Premièrement, même s'il ne semble pas y avoir de littérature sur un nombre de syllabes idéal, les noms à rallonge ou excessivement courts risquent de compliquer les choses pour l'apprentissage. Surtout, la vétérinaire préconise d'éviter d'en choisir un trop proche de termes fréquemment utilisés au quotidien. Si on utilise un mot prononcé tous les jours à toutes les sauces, ça va devenir plus difficile pour l'animal de faire la bonne association et de venir à nous. Il faudrait que ce soit un nom un peu distinctif, nous dit la docteure Isabelle Bazin, vétérinaire spécialiste en médecine du comportement au Centre d'Aubigny de Québec. Autre astuce. Essayez d'éviter un nom proche d'une commande, assis, couché, etc., ce qui peut mener à quelques confusions. Notez à quel point l'assis et assis ont une sonorité similaire. Si l'animal connaît déjà son nom et qu'on veut lui montrer une nouvelle commande, on pourrait simplement choisir un mot différent du nom, suggère la spécialiste. Par exemple, pour un chien appelé coucou, on pourrait substituer la commande dodo à coucher et le tour serait joué. Enfin, prenez garde à la multiplication et à l'abus de surnoms qui, bien qu'adorables, pourraient créer des interférences dans le processus. Tout chien et tout chat a le potentiel d'apprendre son nom. Adorable chiot ou vieux matelot, il n'est jamais trop tard ni trop tôt pour l'enseigner. Les entraînements peuvent commencer aussitôt que l'animal interagit avec nous. Il suffit de dire son nom, qu'il nous regarde, et le récompenser tout de suite avec une gâterie, puis renforcer cette association, explique la docteure Bazin. Pour éviter de forcer sur les gâteries, on peut puiser dans la portion de nourriture quotidienne ou en garder quelques-unes sur nous pour les distribuer au gré de la journée. Deux points cruciaux. S'exercer quand l'animal est disponible et dans un environnement calme et éviter de le gronder en prononçant son nom. Rebaptiser Brutus et les animaux adoptés peuvent-ils être perturbés par un changement de nom? Si l'appellation précédente est inconnue et qu'un nom provisoire a été décerné par un refuge, pas de souci. Il suffit de commencer l'entraînement depuis le début, avec le nouveau nom choisi par les adoptants. Mais si l'animal y répond déjà, ce n'est pas une mauvaise idée de le garder. Pour ceux qui tiennent vraiment à le changer, il faudra recréer une association. Il est possible de le changer. Il faudrait alors prononcer le nouveau nom avant de dire l'ancien, puis récompenser l'animal, ce qui permettra avec le temps de faire la jonction, nous apprend la spécialiste. D'ailleurs, combien de temps sera nécessaire? Difficile de l'estimer, car tout dépend de l'animal, de la qualité des friandises, les aime-t-il un peu ou à la folie, et de la fréquence des exercices. Et les chats, souvent dépeints comme experts en snobisme, reconnaissent-ils leur nom? Plusieurs études récentes démontrent que c'est bien le cas, même s'il leur arrive de nous ignorer superbement. Selon Isabelle Bazin, leur apprendre à y réagir n'a rien d'insurmontable, puisque la même méthode que celle destinée aux chiens s'applique. Mais elle insiste sur la qualité de la récompense, car si les caresses et l'attention peuvent fonctionner dans certains cas, les résultats arrivent beaucoup plus rapidement et sont beaucoup plus constants quand on présente réellement une récompense, comme de la nourriture, chose qui renforce le plus un chat. Il pourrait très bien entendre son nom de 5 à 30 fois et décider de nous ignorer parce que pour lui, l'attention n'est pas quelque chose qui le récompense suffisamment pour qu'il fasse l'effort de venir ou de regarder. C'était « Baptiser le bien, nom d'un chien », un texte de Sylvain Sarrazin, paru le 26 février 2023 dans la presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.vcevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier, Claire Dorion, Hélène Lamarche à la lecture, Daniel Veillette et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.